Anel Acer, confortablement installé, voilà, comme chaque semaine, dans les studios de Radio Présence. Bonjour d'abord.
Bonjour Philippe.
J'espère que vous allez bien, Anne.
Très bien, Philippe.
Voilà, ça s'entend. Il paraît que le sourire s'entend, donc je peux confirmer que vous avez le sourire, Anne.
Mais vous aussi, Philippe.
Pour moi, c'est une minute, c'est des minutes de bonheur quand je suis en votre compagnie et on part dans les Pyrénées et c'est magnifique à travers les ouvrages que vous avez sélectionnés pour nous. J'aime bien le dire parce que vous n'arrivez pas avec un livre sous la main et puis vous avez corné deux ou trois pages que vous lisez et puis vous repartez. Non. D'abord, vous avez lu le livre. Après, vous avez sélectionné un passage ou des passages. Vous recopiez tout. Vous imprimez ça sur une feuille de papier et vous venez pour lire cette feuille de papier. Donc, c'est un travail colossal. Voilà, donc vous aussi, donc grand merci à vous. Et vous êtes en plus bénévole à la radio depuis maintenant quelques années. Ouais, il n'y a plus qu'à vous dire vraiment merci, Anne.
Oui, Philippe, mais c'est un travail qui m'emplit de joie.
Très bien. Alors, la machine à remonter le temps va nous amener aujourd'hui dans les communautés paysannes pyrénéennes. Il y avait cela bien longtemps. Henri Lefebvre remonte au 14e, 15e et 16e siècle, au moins.
Oui. Oui, parce qu'Henri Lefebvre est de ceux qui pensent qu'un pays ne peut avoir de futur que s'il connaît son passé. Et s'il s'intéresse plus particulièrement aux Pyrénées, c'est parce qu'il y a passé son enfance, notamment à Navarinx, dans les Pyrénées Atlantiques.
Alors, Navarinx est un haut lieu touristique. Et puis, depuis 2014, la commune fait partie des plus beaux villages de France.
Oui, c'est vrai. Mais Henri Lefebvre étend ses recherches à la chaîne tout entière des Pyrénées. Il étudie 9 vallées depuis le Pays Basque jusqu'au Roussillon.
Et pour cela, il s'appuie sur les archives du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Aujourd'hui, vous avez retenu, Anne, un passage qui évoque les débuts de l'économie marchande et monétaire dans les vallées pyrénéennes. On vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Henri Lefebvre fut un philosophe et un sociologue de renommée internationale. Il est né en 1901 à Achetemaux dans les Landes. Il s'est éteint en 1991 à Navarinx, au cœur des Pyrénées-Atlantiques. Henri Lefebvre s'est intéressé au peuplement dans les Pyrénées, depuis ses origines, mais aussi aux coutumes et aux usages qui ont conditionné la vie des populations pyrénéennes. Dans Les communautés paysannes pyrénéennes, il évoque l'introduction de l'économie monétaire et marchande au XVe siècle. L'introduction de l'économie monétaire et marchande, écrit Henri Lefebvre, ne s'est pas accomplie aisément dans la zone des communautés montagnardes fortement organisées. Dans la communauté agro-pastorale, pas de place pour les marchands, du moins au début. Le commerce et l'échange, réduits au minimum, se font par troc et par quelques ventes, au moment des déplacements de troupeaux sur les marchés, comme Oloron ou Bagnères, en bordure de la montagne. On vit en économie naturelle, chaque maison cuit son pain, file et tisse, et qui aurait pu devenir marchand, accumuler le petit capital nécessaire, modifier l'organisation rigoureuse de la famille et du village? Les échanges monétaires sont apparus avec une extrême lenteur et contrôlés dans les communautés solidement organisées par la communauté ou par le seigneur ou par les deux. Ainsi, dans les villages de Béarn et de Bigorre, chacun pouvait en principe vendre du vin, l'un des premiers et des plus importants produits échangés avec la plaine française ou avec l'Espagne. Cependant, le seigneur se réservait le droit de vendre son vin ou sa pommade, autrement dit son cidre, soit le premier, soit au moment des plus hauts prix. Les tavernes appartenaient au seigneur. Plus tard, les commerçants, moyennant redevances, récupérèrent le souquet ou droit sur le vin et les tavernes. Mais les communautés affermèrent ces droits à des étrangers, marchands de vin. Ainsi, une sorte de monopole pour la vente du vin se créa en Bigorre et Béarn, sous contrôle des communautés ayant taverne et droit de souquet. Cette organisation dura jusqu'au XVIIe siècle et elle était dominée par des commerçants de la plaine. De même, les taverniers formaient une corporation de fées, réglementée par les communautés mais extérieure à elles. Ces taverniers en général, mal vus et suspectés de toutes sortes de délits, y compris blasphème, hérésie, prostitution, probablement à juste titre, s'enrichissaient cependant, s'implantaient dans les communautés, devenaient voisins, entraient dans la catégorie des notables. Au XVIIe siècle encore, les habitants de Campan, dans les Hautes-Pyrénées, ne vendaient pas eux-mêmes le beurre qu'ils fabriquaient en quantité. Selon le témoignage d'un bon observateur de ce temps, Morand, cette communauté de Campan abonde en bétail à laine et le beurre y est bien meilleur qu'en aucun autre endroit. Et il est soigneusement recherché par les habitants de Ciotat qui le transportent et revendent à Toulouse. Or, les gens de Ciotat sont des étrangers en Bigorre et passent encore pour cela aujourd'hui. D'après une tradition incontrôlable, des Espagnols chassés de leur pays après une guerre ou une révolte se seraient fixés en Bigorre. En fait, ils ont des droits particuliers, notamment des habitudes culinaires très différentes des Bigourdans. Quelle que soit son origine, ce village, composé d'étrangers ou passants pour tels, se spécialisa. Ses habitants devinrent intermédiaires et transporteurs à longue distance. En effet, ce village se trouve en bas pays et à proximité de la grande route des Pyrénées. Cette spécialisation par village était fréquente. Ainsi, le petit village de Sarlabousse, dans les Baronnies, en Bigorre, confectionne depuis des siècles et continue aujourd'hui encore à confectionner des paniers d'osier. L'introduction du commerce, commencée par le vin, par les produits des villages spécialisés, s'est développée principalement par l'échange des laines et des tissus. Chaque famille, filant et tissant, un petit excédent de production dû à quelques perfectionnements techniques a pu passer dans le commerce. Les profits de l'artisanat familial complétaient l'économie naturelle fermée de la maison et du village. Ainsi, rentraient dans le budget les sommes, relativement faibles, indispensables pour le paiement des impôts et redevances. Les forains, chargés des échanges, s'installèrent sur place. Ils devinrent de petits entrepreneurs exploitant une main-d'œuvre à domicile. Ainsi, à Campan, le livre des fiefs, révisé en 1647, mentionne 3 taverniers et 5 marchands lainiers ou drapiers qui figurent parmi les notables les plus imposés. Ces marchands ont un troupeau et des terres. L'imposition reste calculée par bouade ou bacade, tête de gros bétail, ou 10 ovins. On peut donc supposer qu'ils fournissent une partie de la matière première à la main-d'œuvre domestique. Une petite industrie textile se créa ainsi, qui se développa par la suite, puis fut absorbée par les centres plus importants, par Bagnères notamment. Henri Lefèvre s'est intéressé aux particularismes qui subsistent encore dans certaines hautes vallées des Pyrénées. Particularismes qui concernent le pastoralisme, les liens familiaux et qui ont subsisté malgré la Révolution et le Code napoléonien. Le passage retenu est extrait de la thèse soutenue par Henri Lefèvre et publié sous le titre « Les communautés paysannes pyrénéennes » par la Société Ramon et le Cercle historique de la Ribère en 2014.
Voilà, né. Toute transformation économique entraîne des transformations au niveau social. Hein. C'est ce que nous montre le passage que vous avez retenu.
Eh oui, c'est exact. Mais je voudrais revenir, Philippe, sur un terme utilisé par Henri Lefèvre, le terme « voisin ».
Ah oui, en effet. Vous avez dit que les taverniers s'implantaient dans les communautés et devenaient Voisin, je suppose que ce mot n'a plus rien à voir avec le sens actuel. Hein.
En effet, dans les sociétés bigourdanes, il ne suffit pas d'habiter le même village pour devenir voisin. Le voisinage reposait, Philippe, sur un ensemble complexe de droits et de devoirs. Mais il fallait pour cela posséder une maison et sa terre pour devenir voisin.
Et c'est ainsi que les cadets et les cadettes qui n'héritaient pas ne sont pas des voisins ou sont des voisins de par procuration ou des
méitades. Je ne sais pas comment il faut prononcer.
C'est-à-dire des moitiés de citoyens, c'est pas très joli. Vous avez évoqué aussi, à propos de Campan, le livre des fiefs.
Oui, alors le livre des fiefs, c'est un livre qui comprend des dispositions concernant le droit féodal. Et les premières versions datent du 12e siècle. C'est pour ça qu'il fallait la machine à remonter le temps, Philippe.
Et puis elle a parfaitement marché, Anne. La semaine prochaine, Anne, nous prendrons une nouvelle fois la machine à remonter le temps, car vous avez choisi un texte qui évoque un temps où l'on découvrait les Pyrénées. Donc nous gravirons le pic du Midi d'Ossau par une claire matinée du mois de mai. C'était en 1582, grâce à Jean-François Soulet. À la semaine prochaine, Anna.
À la semaine prochaine, Philippe.